Bonjour Alain.
Bonjour Henri.
Nous avions étudié la semaine dernière la mémoire et l'espérance. La semaine d'avant, nous avions étudié la foi, l'intelligence. Aujourd'hui, il nous reste quand même à étudier la dernière des volontés, celle que saint Paul dit que c'est la plus grande d'entre elles, la charité. Avant de parler de la charité, il faut qu'on s'intéresse à la volonté, qu'on puisse la définir. Donc peut-être cette question toute simple, Alain. Qu'est-ce que la volonté?
Eh bien, une question toute simple, comme vous dites, et comme vous y allez. Je crois qu'on ne peut pas définir la volonté si on ne la raccorde pas au désir. Et il y a en nous un désir, une espèce d'appétit de vivre, et cet appétit de vivre fait que nous voulons des choses. Voilà, je crois que la volonté, c'est la mise en œuvre de notre désir d'exister, de notre désir de vivre.
Donc sans désir, pas de volonté.
Oui.
C'est contradictoire avec la charité, parce que quand je donne, je ne désire pas forcément.
Et oui, bien sûr, c'est le point le plus extraordinairement difficile, c'est cette contradiction. C'est que le désir, dans son mouvement de désir, le désir prend, il est saisi, alors que dans la représentation que nous avons de la charité donne. Il y a une tension entre le désir qui veut saisir et la charité qui veut donner. Or, évidemment, répondre de la vertu théologale de la charité, c'est parvenir à montrer que ces deux aspects contradictoires ou apparemment contradictoires ne sont pas du tout contradictoires, mais qu'il s'agit bien de la même chose. Mais ça demande de faire un long détour.
Si on reste dans le caractère de la charité, donc là, la période de Noël, on est très incité à effectuer des dons et on reçoit des reçus fiscaux. Est-ce qu'on peut dire que le don à une association, c'est un acte charitable?
Oui et non. Tout dépend comment c'est fait, tout dépend de la façon dont ce don est investi et les conséquences qu'il y aura. C'est extrêmement difficile de répondre à cette question. En tous les cas, ce qui est certain, c'est que ce n'est pas un problème simple et que bien des fois, la vertu de charité se met en œuvre parce qu'il y a une vertu défaillante, ce qui n'est pas une vertu théologale, la vertu de justice. Dans tous les cas que vous évoquiez là à l'instant, c'était des cas dans lesquels, au moins en arrière-fond, au moins comme connotation, la charité entrait en œuvre parce que on était devant des situations injustes. C'est aussi ça l'ambiguïté de la charité. Il va falloir lui donner un ancrage qui ne passe pas seulement de la possibilité de faire des dons.
Au fond, alors, qu'est-ce que désire l'homme?
Saint Augustin qui a répondu à cette question, il désire être heureux. Fondamentalement, ce qu'il veut, c'est être heureux. Mais est-ce qu'on peut être heureux sans être aimé? C'est pas sûr. Est-ce qu'on peut être heureux sans aimer? C'est pas sûr non plus. Donc il y a un lien extrêmement compliqué, mais extrêmement fort, entre le désir, aimer, vouloir être aimé, donner, prendre. Tout ça fait un ensemble extraordinairement complexe. Une des manières de s'en tirer, c'est de dire, voyez, il y a deux sortes d'amour, il y a un amour oblatif qui donne et il y a un amour captatif qui prend. L'ennui, c'est que un amour oblatif, un amour qui serait totalement oblatif, on ne voit pas très bien ce que ça voudrait dire. Ou alors, on le démasquerait, cet amour qui se prétend oblatif, comme des tentatives de domination de l'autre. Il y a un texte de Jean de la Croix précisément qui dit à quel point le véritable amour veut son salaire et son loyer, dit-il. Sinon, ça n'est pas amour véritable. Si j'aime, donc si je suis charitable, hein, puisqu'on peut quand même superposer les deux termes, si j'aime, cela veut dire que je suis moi quelque chose, que j'ai besoin de quelque chose. Si dans le fait même de donner, moi, je ne reçois pas quelque chose et quelque chose de vital, je me mets en position de domination par rapport à l'autre. Et ça peut aller jusqu'à l'humilier. Donc il faut que j'ai besoin de donner pour que mon don soit véritable. Aristote dit qu'il ne peut y avoir de don qu'entre des égaux. Si un supérieur donne à un inférieur, eh bien, ce n'est pas un don. Pour qu'il y ait don, au moment du don, il faut qu'il y ait une égalité parfaite entre les deux. Et cette égalité parfaite ne peut être obtenue que si celui qui donne reçoit et celui qui reçoit donne en même temps. Et alors, je ne sais pas si on peut faire facilement le court-circuit, mais on tombe pratiquement immédiatement sur la notion de liberté. Vivre intensément, c'est vivre librement. Donc il faut que dans l'exercice de la charité, il y ait aussi un exercice de libération. Et ça, c'est peut-être assez facile à comprendre à partir du moment où on remarque qu'il n'y a pas d'opposition entre les libertés. Deux libertés qui s'opposent, c'est impossible. Au moins l'une des deux est non pas une liberté, mais une aliénation. Contrairement à ce que l'on dit juridiquement, que ma liberté s'arrête ou commence celle de l'autre, ça c'est une situation de négociation, ce n'est pas une situation de liberté. Il faut bien dire que ma liberté commence là où commence celle de l'autre. Que plus l'autre est libre, plus moi-même, reconnaissant cette liberté, je me libère.
Ça veut dire que, par exemple, mon don a quand même pour objet un objet d'amour et de vouloir la liberté de l'autre.
Et que de cette liberté, il fasse exactement ce qu'il veut. Et moi, j'ai à accepter qu'il veuille faire exactement ce qu'il veut, même si ce qu'il veut, mais au moins partiellement contraire. C'est pourquoi je peux aimer mes ennemis, par exemple.
Comme moi, je donne de l'argent à quelqu'un dans la rue qui va s'enivrer. Je ne donne pas de l'argent à quelqu'un pour qu'il exerce sa liberté de s'enivrer.
Si je lui donne de l'argent, je n'ai aucune condition à mettre, sinon je ne lui ai pas donné. Je suis entré dans une relation d'enseignement, pourrais le rattacher finalement à la charité en disant « mais dans cette éducation que j'essaye de lui donner, c'est parce que je l'aime, on arriverait à retomber sur nos pattes ». Mais dans le geste même de donner, le don est sans repentance. Dans le cas que vous évoquiez, ça consistait à dire « oui, je vais lui donner des moyens d'une liberté qu'il est incapable d'exercer ». Donc, il ne faut pas que je lui donne à ce moment-là. Il faut que je m'y prenne autrement.
Pour désirer sa liberté.
Exactement.
Est-ce que là, il n'y a pas une ingérence de ma part à vouloir désirer la liberté de quelqu'un qui veut s'enivrer ?
Si je suis persuadé qu'en donnant de l'argent à quelqu'un, il va aller le boire et que par là même, il va détruire sa santé, il ne faut pas que je lui donne. Maintenant, je peux aussi lui donner cet argent en me disant qu'il est bien capable de savoir ce qu'il veut faire. Le moment où je lâche le don que je fais, ça doit vraiment être un moment où il est possible de vivre.
Moi, je comprends que ma charité doit augmenter mon désir de liberté de l'autre et donc ma liberté en même temps.
En quoi le fait de désirer la liberté de l'autre et donc d'agir pour lui donner plus de liberté, ça va faire grandir ma propre liberté ?
Parce qu'elle va la rendre capable d'accepter la liberté de l'autre, ce qui est une chose difficile. Mais à partir du moment où, constatant que l'autre fait ce qu'il veut et non pas ce que moi je veux, j'éprouve non pas une diminution de ma liberté, mais son augmentation qui permet de me dire à moi-même, tu vois, tu es quand même capable d'accepter qu'un autre fasse quelque chose qui ne te convient pas et que cela ne t'entame pas, cela ne te diminue pas. Au moment où j'accepte la liberté de l'autre, pour pouvoir le faire, il faut que je hausse ma propre liberté à un degré qu'elle n'avait peut-être pas.
Merci beaucoup Alain pour toutes ces explications et ces éclairages sur les différentes vertus théologales. Nous espérons que vous avez apprécié ces différents podcasts sur ce thème. Si vous avez des questions, des remarques, des commentaires, n'hésitez pas à nous en faire part à l'adresse suivante caféphilo.mcc@gmail.com caféphilo.mcc@gmail.com. Nous espérons vous retrouver très bientôt pour un nouveau thème avec un nouvel intervenant. Et d'ici là, vous pourrez écouter et réécouter les différents podcasts sur les vertus théologales sur le site du MCC. À très bientôt. Au revoir.